voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Bien, merci d'être à l'écoute du magazine Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui des relations entre parents et enfants qui ne sont pas toujours au beau fixe. Plus les enfants grandissent, plus ils deviennent exigeants par rapport à leurs besoins, ce qui finit par altérer parfois l'harmonie au sein de la famille. Les enfants ne s'entendent pas avec les parents, les enfants deviennent rebelles. Voilà, c'est des choses qui arrivent dans bon nombre de familles à travers le pays, dans la société. Alors, que faut-il faire? Qu'est-ce que les parents doivent faire et les enfants de leur côté pour maintenir des relations harmonieuses entre parents et enfants? Eh bien, on en parle avec notre invité Isidore Bamana. Il est éducateur à la vie. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous parlons de la bonne entente entre parents et enfants. Quelles sont les raisons qui peuvent dégrader les relations entre parents et enfants?
Oui, merci Jody, merci pour l'invitation et merci pour le sujet. Les bonnes relations entre parents et enfants assurent l'avenir de la famille et particulièrement l'avenir des enfants. Parce que s'il n'y a pas bonne relation entre les deux, se comprendre mutuellement devient difficile et en ce moment-là, on va vivre comme chien et chat. Mais ce qui peut détériorer les bonnes relations, c'est l'incompréhension. L'incompréhension qui existe d'abord entre les conjoints vis-à-vis de l'éducation qu'ils doivent assurer à leurs enfants, mais aussi l'incompréhension de chaque enfant parce que chaque enfant est un être à part entière, quoi qu'il soit né de ses parents, mais c'est un être à part entière. Il est venu sur cette terre pour accomplir une mission qui lui a été confiée par le Créateur. Et s'il faut vraiment bien vivre avec cet enfant, il faut le connaître. Comme on a dit, pour éduquer John, il faut connaître John. Si les parents ne connaissent pas l'enfant et que ce qu'ils font comme effort pour son éducation ne rencontre pas ses propres aspirations, je crois que les relations ne seront pas très bonnes. Les parents vont peut-être se dire, cet enfant est têtu, il est désobéissant, alors que l'enfant a autre chose à faire, selon ses propres talents, selon sa mission, qui lui a été confiée par le Créateur. Et si les parents ne sont pas en mesure d'observer l'enfant et le découvrir, pour pouvoir l'aider dans ce qu'il a naturellement comme potentialité, je crois que commence l'incompréhension.
Mais certains parlent des injustices lorsque l'enfant subit tellement des injustices en famille et il finit par se rebeller.
J'allais y arriver. Mais il y a d'abord les ordres mal donnés. Sans pouvoir étudier dans quelles conditions cet ordre que je donne pourra être exécuté pour la satisfaction de l'enfant et de ses parents, si on tient absolument à lui donner cet ordre-là, je crois qu'il n'y aura pas entente.
Un exemple,
je prends chez moi Mujimai, il y a un match au stade entre Nsangabele et Mazembe, c'est un grand match, c'est un grand derby à Mujimai. C'est un enfant qui a 15 ans, qui a 17 ans, qui aime le foot. Il veut aller au stade, mais c'est entre-temps que le père lui dit, écoute, va au marché me faire les emplettes. Et si l'enfant n'a pas le courage de lui dire, écoute papa, mais moi je préfère aller au stade, s'il prend la route d'aller au marché, je crois qu'il va dévier, il va aller au stade et il revient à la maison 2 heures après, ou après le stade, comme le match se termine vers 15h15, il va se précipiter pour aller au marché, il trouve que ce qu'il pouvait acheter, on a déjà fermé le kiosque, il revient à la maison main bredouille. Si le parent n'est pas prêt pour comprendre que cet enfant, ce jour ici, il y avait cet événement, et que pour lui, il aimait aller au stade, à ce moment-là, il y aura bruit terrible.
Mais il y a aussi... Mais comment les parents peuvent le savoir si l'enfant n'a pas exprimé son désir?
Ah, ça aussi. Il y a des enfants qui savent pas exprimer leur désir, parce que les parents se comportant tellement comme des caporaux. Lui, il n'a que des ordres à donner. L'enfant, lui, n'a qu'à exécuter. On ne laisse
pas de négociation.
On ne laisse jamais à l'enfant le temps de placer un mot. Le temps de dire, oui, papa, j'accepte, mais je te dis que je vais d'abord aller au stade. C'est s'il y a une bonne ambiance dans la famille, que les parents laissent un espace d'expression à leurs enfants, à ce moment-là, je crois que un ordre donné va être reçu, et peut-être après une petite réaction, on se met d'accord. À ce moment-là, on remet les bonnes relations entre les parents et les enfants. Si l'enfant, par exemple, il a fini la deuxième secondaire, pour lui, c'est aller dans la section pédagogique. Pour les parents, c'est faire l'électronique et par après faire l'informatique. Ou c'est faire les sciences commerciales ou les sciences médicales. Et si l'enfant maintient ce que lui désire faire, je crois qu'en ce moment-là, les bonnes relations, il n'y en aura pas. Il y a aussi l'insatisfaction des besoins. Les besoins primaires. Les manger, les logements, l'habillement sont les besoins primaires. Quand ces besoins-là ne sont pas satisfaits, je crois que l'entente entre parents et enfants, ça devient une mer à boire. Et regardez que dans une famille, les enfants dorment par terre. Où les enfants dorment
dans entassés. Dans de mauvaises conditions.
Où ils dorment entassés comme des sardines dans une boîte. Alors que parmi eux, il y a déjà celui qui a 15 ans, qui a 16 ans, qui a commencé l'adolescence, qui ne supporte plus de dormir avec les
avec petits. Avec les tout petits.
Les tout petits qui ont 6 ans, 7 ans, parce qu'ils font pipi la nuit. Et que le matin, la dispute commence pour dire qui a fait pipi dans les lits. Et si le petit l'a dit non, c'est le grand frère.
il se fâche
et à ce moment-là, il regarde les parents, il dit mais pourquoi il me laisse continuer à dormir dans ces conditions? Et si l'enfant dort par terre, qui n'a même pas une mousse, parfois qui n'a pas un drap pour se couvrir. Et aujourd'hui, il y a des parents qui utilisent même les moustiquaires pour étaler par terre la nuit et que les enfants dorment.
Dorment dessus.
Et j'ai dit des choses que moi j'ai palpées. Peut-être qu'ici à Kinshasa, ça ne se fait pas. Mais chez nous, à l'intérieur, il y a des choses comme ça qui se font. À tel point que quand quelqu'un passe le matin, il verra sur la clôture en éphorbe tout ce qu'il y a eu comme matelas des enfants. Les cartons, les moustiquaires. Et même le soir, on lui dit, écoute, tu n'as pas enlevé ton truc là, tu as pissé dessus la nuit et puis tu ne sais pas, on va voir où est-ce que tu vas dormir. Je crois que pour cet enfant, obéir aux ordres des parents devient vraiment
difficile.
Si les enfants n'ont pas bien mangé, je crois que la bonne entente, les bonnes relations vont devenir aussi difficiles. Parce qu'en Espagne, on dit « bonne cuisine, bonne discipline ». Si les enfants n'ont pas mangé, même une fois par jour, même dans les mangers là, il y a parfois certaines injustices que les enfants subissent à la maison. Si papa achetait une boîte de lait, c'est peut-être maman qui consomme seule, papa de temps en temps aussi, mais les enfants regardent. Ils disent, mais regardez ces gens ici. Ils pensent que nous, on n'a pas besoin de lait pour grandir.
Et surtout dans les familles recomposées, les enfants subissent des injustices de la part de la marâtre.
Oh, là, c'est...
Et papa soutient.
C'est le lot de tous les jours, malheureusement. Dans la famille recomposée, la marâtre ou l'homme qui est venu entrer dans la vie de la mère veuve, ils font subir des subisses aux enfants qui, de l'orphelin, les enfants orphelins qui sont restés. Et à ce moment-là, je crois que parler de bonnes relations entre les deux, c'est une mer à boire.
Tu vois, il y a la rancune, la rébellion.
Oui, il y a la rébellion, il y a la désobéissance. Et parlons d'abord de la désobéissance, parce que la rébellion, ça devient une étape assez grave. Parlons de la désobéissance.
Oui.
La désobéissance, donner un ordre qu'on n'exécute pas, où on dit oui, je vais exécuter, mais derrière, on ne fait rien. On ne fait rien parce qu'on se dit, bon, les soirs là, ses propres enfants ont mangé tout ce qu'il y avait comme bon morceau de viande, et nous, on nous a donné des os avec une sauce là-dedans et un peu de foufou pour manger. Je crois qu'à un enfant comme ça, vous donnez un ordre et il ne va pas obéir.
Il ne va pas obéir.
Il ne va pas obéir.
Voilà, il ne va pas obéir. Mais certains parents prennent, soit on va les punir parce qu'il n'a pas obéi, ou on va les chasser de la maison. Maman va dire à papa, cet enfant devient têtu, il n'obéit plus à rien. Et papa dit, dans ce cas, je ne paye plus les minervages, je t'achète plus rien. Alors va te débrouiller ailleurs.
Oui, je crois que c'est malheureusement ce qui arrive pour la plupart des cas. Ils oublient que cet enfant est un être humain, c'est une personne humaine que l'on doit encadrer de manière que plus tard il puisse devenir quelqu'un. Parfois il croit causer du tort à un enfant quand il est à la maison et qu'on lui a laissé toutes les tâches ménagères. Je crois que Gilbert Piana l'avait chanté dans son disque, je ne sais pas si c'est éducation. Il dit, quand vous croyez laisser tous les travaux ménagers à cet enfant-là, vous pensez que vous lui faites du mal, mais
c'est une formation
pour lui. Vos enfants vont devenir plus tard des fainéants, alors que lui a appris à travailler déjà depuis la maison. Donc les injustices là, c'est assez grave. On se met à table, on réserve des meilleurs morceaux de viande à papa, et les enfants regardent. Les enfants observent beaucoup, hein. Même les tout petits de 4 ans, de 5 ans.
Ce sont de grands observateurs.
Ceux qui ont le courage, ils vont dire à maman, mais papa, maman, quand tu nous as servi là, les meilleurs morceaux, c'était pour papa. Et pour certaines mamans, avec courage, elles disent, non, écoutez, papa travaille beaucoup. C'est lui qui nous amène l'argent pour vivre. Donc, il a droit.
On lui réserve les bons
meilleurs
morceaux.
Les gros morceaux, comme on dit chez nous. À ce moment-là, je crois que les enfants qui accumulent, ils vont développer des réactions. D'abord la désobéissance, même à la rébellion là. Peut-être avant que l'on dise « je vais vous renvoyer d'ici », lui-même est déjà parti. Il dit « c'est invivable ici, je préfère aller vivre ailleurs ». Parce que quand nous parlons parfois avec les enfants qui vivent au marché, ils disent, écoutez, ici nous nous sentons mieux que quand nous sommes dans la famille. Dans la famille là, il y a trop d'injustices.
Ici,
nous sommes maltraités. Ici, nous mangeons quand même. Par nos petits travaux, nous arrivons à manger chaque jour. Donc, je crois que s'il faut entretenir de bonnes relations avec les enfants, il faut tenir compte de beaucoup de choses.
Bien, nous avons des auditeurs en ligne, Adjima Amouti de Kindou et Adriana Mouyeti de Lubumbashi. Vous voulez également participer à cette émission, appelez au 081 890 63 94.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le total de l'après-midi sur Radio Okapi.
Bien, comment préserver une bonne entente entre parents et enfants, en famille? Adjima Amouti, vous êtes à Kindou, bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, je dis, un petit témoignage avant de poser la question.
Oui.
D'abord, je remercie l'invité parce que je crois qu'il est, spécialiste et maîtrise bien les systèmes. Maintenant, avant que je pose la question, juste pour donner un petit témoignage. Moi, j'ai un petit frère de la famille qui a sa mère. Sa mère est devenue veuve parce qu'elle avait perdu son mari. Maintenant, le petit est resté avec sa mère. À un moment donné, comme ça, la maman s'est beaucoup démenée pour que l'enfant étudie. L'enfant a étudié. Arrivé en deuxième année, l'enfant a beaucoup d'irrégularités. Maintenant, la maman a dit que comme l'enfant ne maîtrise pas beaucoup plus les écoles normales, Et elle a jugé utile de l'envoyer à une école mécanique. L'enfant aussi, il était très content parce que lui-même avait déclaré que non, il faut que maman, il faut que vous puissiez m'envoyer à une école mécanique parce que moi je ne maîtrisais pas l'école normale. La maman s'est aussi donné l'audace. Elle a acheté les sacs et consorts. L'enfant est parti à l'école mécanique de l'autre côté. À un moment donné, comme ça, l'enfant aussi est devenu irrégulier. Après l'irréalité de cet enfant-là, la maman aussi a jugé, bon, qu'elle doit-elle faire? Elle a aussi jugé, elle a demandé à l'enfant, est-ce que voulez-vous quoi? L'enfant dit que non, moi je veux que vous puissiez m'acheter une moto pour les taxis. La maman aussi, par rapport aussi à sa vie des jeunes, elle a jugé bon d'acheter une moto. L'enfant a commencé à passer de courses Kindu Kalima, Kalima Kampeno. L'enfant est devenu maintenant trop chanvrier. Et il arrive parfois que même les versements à la maison, il ne parvient plus à verser comme d'habitude. Les simples 12 000 francs, l'enfant commençait à verser 7 000 francs et parfois il réalise même deux ou trois jours, il ne versait pas pour motif qu'il a connu un accident quand il était parti à Kampeno ou soit à Kalima. Maintenant, apparemment, l'enfant se lance au groupe des fumeurs de chambre. Il est devenu chanvrier et il ne parvient même pas à passer la nuit à la maison. Et à un moment comme ça, il s'est donné même l'audace de changer de parole avec sa grand-mère et avec aussi sa tante maternelle. Arrivé même à s'échanger le parole avec sa mère biologique. Maintenant, pour chercher une bonne attente, un bon climat entre la maman et son fils-là, hein, quel invité puisse me donner un peu les explications afin que je transmette aussi à la maman, parce que c'est une maman de notre famille.
D'accord, merci Hadji. Adrien Amouyeti est à Lubumbashi. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, monsieur Marcel Ngombo. Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour aussi à notre invité, l'éducateur Isor Bamanaï. J'avais trois questions à poser à notre invité compétent qu'il est. Il a su répondre à mes deux questions et je suis restée qu'avec qu'une seule question.
Oui.
Et avant de poser ma question, j'aimerais dire que je suis Adrienne Amouyeti et non Amouyeti. Ma question est de savoir, monsieur Isor Bamanaï, est-ce possible qu'un parent qui n'était pas attaché à son nouveau-né ou à son enfant dès le bas âge, de créer d'instaurer une bonne relation avec son enfant tardivement? C'est tout ce que j'avais comme question. Merci, monsieur Jody.
Merci, Adrienne Amouyeti. Cyprien de Kinshasa, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, pas tellement une question, mais je voulais contribuer à l'émission. Merci, monsieur Daniel. Alors, je voudrais dire que je ne peux pas comprendre, n'est-ce pas, qu'un enfant puisse avoir des accords avec son parent. Premièrement, parce que les parents, c'est son géniteur, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est le parent qui a voulu que l'enfant puisse venir au monde. Même la Bible nous le recommande. Quand vous lisez dans Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4, on demande aux enfants d'obéir à leurs parents, d'honorer leurs parents, afin qu'ils grandissent. Et Dieu même exige aux parents de ne pas hériter les enfants. Ça voudrait dire quoi? Un enfant qui obéisse à son parent, ça voudrait dire que les parents même ne l'aiment pas. Parce que les parents ont les devoirs et les obligations d'aimer, d'aider, d'assister, d'accompagner, de dialoguer, d'écouter, même de considérer son enfant. Comment il s'est arrivé que toi tu ne dialogues pas l'enfant, l'enfant qui désobéit, bah, tu ne comprends même pas les cours de l'enfant, il a quel âge, quel message qu'il faut apporter, quel qu'il faut l'orienter dans les différents services pour pouvoir l'encadrer. Donc voilà que je voudrais vraiment participer pour dire que un enfant qui, ou un parent, ne peut pas être en désaccord avec son enfant, d'autant plus que c'est lui le géniteur. Voilà un peu ma petite contribution que j'avais à l'émission, je vous remercie.
Merci Cyprien. Nous allons accueillir Moïse Décalémy. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour, monsieur Jury. Juste, je voulais revenir en disant que, comme nous vivons ici chez nous, vraiment c'est déplorable. Où vous remarquez un parent qui quitte et qui laisse les enfants pendant 5 ans et ils ne savent pas comment est-ce que les enfants sont en train de survivre. Alors, face à ce parent, quand il va revenir à la maison, est-ce qu'il y aura le courage là de l'accueillir, quel que soit il arrive avec quoi? Est-ce que ces enfants-là, ils vont grandir avec l'éducation de leurs parents en commun. Alors, face à ces parents, quel conseil il faut donner? C'est ça ma préoccupation.
Merci. Merci Moïse, Isidore.
Oui, merci à tous les auditeurs qui sont intervenus. Notre ami de Kindu, Adrien Delbumbashi, Cyprien et Moïse. Je crois que la question de notre ami de Kindu, avec un témoignage dans une affaire assez compliquée, où la mère qui est restée seule et la grand-mère ont tout fait pour cet enfant.
Qui ne veut pas étudier.
Qui ne veut pas étudier. On lui a acheté une moto. Avec l'argent de la moto, il commence à fumer du chanvre. Il désobéit. Il commence à échanger des paroles avec ceux qui ont tout fait pour l'encadrer. C'est un enfant qui va tout droit vers l'échec dans sa vie. Parce que l'échec va certainement arriver. Pendant qu'il a l'argent et qu'il est en train de fumer du chanvre, il ne pense pas à l'avenir. Il croit que la vie, c'est celle qu'il est en train de mener là, chaque jour. Il roule avec sa moto, il prend l'argent, il va fumer du chanvre. Il va vers l'hécatombe. Je crois que les parents doivent prendre patience, doivent chercher à savoir comment il en est arrivé là. Peut-être qu'il y a eu des amis qui se sont interposés dans sa vie, et qu'il lui a mis des choses dans la tête. Et quand on lui a mis des choses dans la tête, qu'il a commencé à les appliquer, les enlever devient un peu compliqué. Je crois que de temps en temps, il faudra parler sérieusement avec cet enfant et lui prouver noir sur blanc que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il va récolter demain ce qu'il est en train de semer aujourd'hui. Il faut mettre cet enfant devant ses propres responsabilités et lui montrer que, en agissant comme ça, on ne peut pas réussir dans la vie. On s'attire le malheur pour rien, d'ailleurs. Et si on lui parle, il ne faut pas le sermonner, il ne faut pas le gronder, on lui parle
calmement.
On cherche à toucher son cœur. Parce que j'ai l'impression qu'il peut être encore adolescent. S'il a 18 ans ou même 20 ans, il est encore adolescent. S'il faut lui parler, il faut toucher son cœur et lui parler de sa propre vie. Et non pas des relations entre lui et sa mère et sa grand-mère. Il faut lui parler de son avenir et lui montrer que si on veut réussir dans la vie, voilà. On ne se fatigue pas à les répéter, et quand on les répète, je crois que Dieu qui voit cet effort, cette patience à attendre les bons résultats, finira par donner une solution à cette situation qui paraît compliquée. Mmh. Et pour Adrien,
un parent qui a abandonné les enfants depuis longtemps, il est parti en Angola, et puis il revient des années plus tard. Est-ce que les enfants vont accepter? Est-ce qu'il y aura d'abord de l'affection? Est-ce qu'il y aura de l'entente?
Adrien parle un peu plus d'un nouveau-né, c'est-à-dire un enfant qui est né pendant que le père était absent. Pour les autres enfants, il était peut-être là. C'est un cas qui m'est arrivé. J'ai fait 2 ans en dehors de chez moi. Entre-temps, mon épouse portait une grossesse. Un enfant est venu au monde en 1999, à mon absence. Et je me suis posé moi-même la même question. Quand je vais arriver, comment ça va être avec cet enfant-là qui est né pendant mon absence? Eh bien, pendant que j'étais pas là, j'ai dû demander à mon épouse de lui parler de moi, de lui montrer les photos, de telle manière que quand j'arrive, qu'il puisse quand même me reconnaître et venir vers moi. J'ai envoyé de temps en temps des cadeaux. On lui a donné en lui disant c'est papa qui a envoyé.
Oui,
c'est, même si il n'était pas encore à l'âge de pouvoir parler et de réagir. Donc quand ce papa revient et qu'il y a un nouveau-né, restaurer les relations, c'est plutôt l'observer, l'approcher et par des petites choses. Pas de bonbons, pas de biscuits, par une présence affectueuse. L'approcher, le transporter et lui dire, écoute, tu sais que c'est moi, papa est là maintenant.
Papa mais prenons le cas de celui qui a abandonné sa famille.
Oui, et puis, qui est parti longtemps,
il apprend que sa fille se marie, bon, il revient, alors que la fille a été élevée par un autre papa. Ouais. Il exige de prendre la dot à tout prix et les enfants se fâchent.
Oui, la dot, il prendra. Mais les relations ne s'achètent pas par la dot. S'il y a un problème de dot, qu'on lui laisse prendre la dot.
Parce qu'il a la dot,
c'est une somme d'argent qu'il va utiliser pendant un ou deux mois ou trois mois et ce sera fini. Mais les relations, ça reste. Ce qu'il doit faire, c'est d'abord recréer les relations. Si c'est possible, réunir même les enfants et leur dire, voilà, j'étais parti pour longtemps, c'était pour telle raison, je sais que vous avez remarqué mon absence et que vous avez souffert.
Il n'envoyait pas l'argent, il n'envoyait rien, les enfants ont trimé.
Maintenant, je suis revenu, je vous demande pardon. Parce qu'il n'y a que le pardon qui peut réparer les choses. S'il a le courage de demander pardon à ses enfants en présence de son épouse, je crois que peut-être les enfants vont éclater en sanglots. Et à ce moment-là, ils vont s'entourer des bras. Et voilà, les bonnes relations sont parties. Il n'y a pas un grand prix à payer. Il n'y a pas un grand prix à payer. Il faut seulement mettre un peu d'eau dans son vin. Il faut un peu avoir un peu d'humilité, même si on est parent. Avoir un peu d'humilité, ce n'est pas en tapant, c'est pas en élevant la voix qu'on se fait obéir. Hein? Comme en management, on dit, il faut avoir des mains en fer, mais où on a mis des gants en velours. Vous tenez fort, mais ça ne fait pas mal à ces enfants-là. Je crois que de cette manière-là, les bonnes relations vont perdurer et les résultats d'une bonne éducation vont apparaître. Cyprien a dit, bon... C'est une contribution.
Les enfants doivent obéir, les parents ne doivent pas irriter leurs enfants.
Mais il n'est pas arrivé là. Je voulais lui dire, dans le même chapitre qu'il a évoqué, il faut qu'il continue les versets qui suivent. Les versets qui suivent disent réellement que les parents ne doivent non plus irriter les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui irritent leurs enfants et qui provoquent même une certaine inimitié entre les parents.
À cause de leur comportement.
À l'heure de leur propre comportement. Prenez un parent ivrogne, qui revient à la maison régulièrement ivre.
Et qui tape maman.
Et qui tape maman en présence des enfants. Hey, est-ce qu'il y aura de bonnes relations entre eux?
Non.
Je crois que si les parents rentrent en eux-mêmes, et ils mettent un peu d'humilité dans leur façon de faire les choses, les bonnes relations vont revenir, et puis le train va redémarrer.
D'accord. Il est temps d'accueillir deux autres auditeurs avant de répondre à Moïse. Jonas Nongala, vous êtes à Gbadolité, Mukalaï, et à Kalemi. Jonas, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ah, merci beaucoup. Bonjour à notre invité et à vous aussi.
Oui, allez-y.
Ah, je ne suis pas de Gbadolité, mais de Guémena.
Vous êtes plutôt à Guémena, on vous écoute.
J'avais seulement deux petites questions à poser à notre invité.
Oui.
La première est de savoir quelle est la place de la punition dans l'éducation des enfants. Hein, car la Bible nous renseigne dans Proverbes qu'il ne faut pas cacher le fouet à l'enfant. Ça, c'est la première question.
La deuxième, allez-y rapidement.
La deuxième question est celle de savoir quelles sont les approches à utiliser pour ramener les enfants qui se sont rebellés à leurs parents tout en vivant dehors de la maison.
D'accord, merci Mukalaï de Kalemi. Quelle est votre question? Bonjour.
Cher Papa Isidore Bamanaï.
Quelle est votre question?
Oui, j'avais une question et une intervention. Je vais commencer avec une intervention. Je vois que les parents prennent les enfants pour des tonneaux vides où ils peuvent verser tout ce qu'ils veulent. Vous allez voir que non, les parents ils sont là seulement pour enchaîner les enfants. Imposer ce qu'ils veulent, comme Papa Isidore Bamaï a dit. Nous vivons avec des soldats dans les maisons. Et une question qui est...
Oui?
Allô?
Oui, on vous écoute. Oui,
une question est que l'enfant qui a grandi avec les injures et les fouets chaque jour, quel serait l'avenir de cet enfant? Merci à Papa Isidore.
Ok. Docteur Emmanuel de Kananga, bonjour. Quelle est votre question? Docteur Emmanuel, vous êtes là? Voilà, il n'est plus là. Isidore Bamanaï.
Oui. Merci beaucoup, Jody. Merci aux auditeurs qui viennent d'intervenir tout à l'heure, Jonas et Mukalaï. Pour Moïse, nous avions déjà dit que les parents qui sont absents tout le temps, quand ils reviennent, ils doivent ramasser leur courage entre les deux mains pour pouvoir dire aux enfants pourquoi ils ont été absents pendant longtemps. Même si les enfants semblent ne pas les comprendre, il faut revenir. Et au besoin, comme je l'ai dit avant, au besoin, leur demander pardon, leur dire désormais, nous vous promettons que nous serons là. Parce que ce que nous cherchions, nous l'avons eu. Nous sommes partis pour votre bien. Nous ne sommes pas partis pour vous abandonner totalement. Mais si pendant leur absence, ils n'ont jamais envoyé quelque chose pour que les enfants continuent à vivre, je crois qu'ils ont commis un péché. Ils doivent aller confesser chez le prêtre ce péché-là pour reprendre la bonne vie. Notre ami Jonas Aguemena, quelle est la place de la punition? La punition vise à corriger l'erreur. Mais aussi la punition vise à encourager. Parce qu'il y a une punition positive et une punition négative. Souvent, nous ne nous appuyons que sur la punition négative. La première sanction positive, elle encourage, elle améliore les relations plus que la punition négative. Si l'enfant a bien fait, on lui a demandé de repasser les habits de ses petits frères. On revient, on trouve que ça a été fait. Je crois que les parents sont en devoir de lui dire merci, de lui dire voilà, bravo, vous êtes vraiment utile dans notre maison, même au besoin un petit cadeau. À ce moment-là, ça encourage l'enfant et les bonnes relations sont maintenues. Mmh. Mais si l'enfant a gaffé et qu'il faut qu'on lui donne une sanction négative, je crois qu'il faudra suivre une procédure pour y arriver. Il ne faut pas tomber sur l'enfant sous l'effet de la colère. Parce qu'en ce moment-là, on risque de lui faire n'importe quoi. Il faut d'abord expliquer à l'enfant qu'il a mal agi et que l'enfant soit convaincu qu'il a mal agi. C'est la première punition négative. Il faut que l'enfant prenne connaissance.
Positive.
Oui, négative.
Négative. Okay.
Que l'enfant arrive à reconnaître qu'il a mal fait. Si l'enfant reconnaît, on peut lui dire, pour cela, nous t'imposons une punition telle. Et la punition, c'est pas toujours le fouet. Hein? Il y a autant de choses qu'on peut donner comme punition sans recourir au fouet. Mais si l'enfant grandit dans les injures et dans les coups, je crois que ses parents se trompent. Ils vont former un brigand. Ils vont former quelqu'un qui va injurier les autres sur la route, dans les quartiers, à l'école. Il va injurier les autres. Ils vont former un enfant qui est toujours prêt à se bagarrer avec les autres membres de la société.
Mmh.
Donc, les injures...
Il a encaissé des injures
toute sa vie. Oui, les injures... D'ailleurs, les injures, ça reste longtemps dans le cœur de l'enfant. Je ne sais plus en quelle année, dans notre famille, nous avons réuni les enfants à la fin de l'année. Nous avons parlé avec eux. Nous leur avons donné la possibilité de nous dire qu'est-ce que nous avons fait de bien et qu'est-ce que nous avons fait de mal, nous, parents. Ils ont parlé. Il y a une petite fille là, elle avait encore, je ne sais pas, 6 ans. Elle a dit, tel jour, j'avais gaffé, papa m'a regardé, il m'a dit imbécile.
Elle a gardé ça dans son cœur.
Oui, elle a gardé pendant longtemps. Les injures s'effacent difficilement. Si vous donnez une gifle, par après, la douleur disparaît. Mais le mot dur là, il fait longtemps dans le cœur de l'enfant. Et en ce moment-là, il peut se dire, mais cet homme n'est pas correct. Hein? Donc, je crois que injurier et taper n'apporte jamais la bonne éducation qu'on doit assurer aux enfants, et plutôt parler aux enfants avec amour. Et je crois que quand on leur parle avec amour, mais aussi on leur parle en les respectant, parce que ce sont des personnes humaines capables de comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, à ce moment-là, on peut un peu hausser le ton. Et même parfois tirer les oreilles. Et les enfants vont dire, ah, je crois que nous avons exagéré. Papa ne nous a jamais tiré les oreilles. S'il a tiré les oreilles, c'est-à-dire que nous avons exagéré. Mais si ce sont tout le temps les injures et les coups, les enfants vont s'y habituer. Et désormais, ça ne va leur dire rien. Et bon, nous sommes habitués.
On est déjà habitués.
Oui,
hein?
C'est notre lot de tous les jours.
Et si, par exemple, les parents se méconduisent, quelle attitude les enfants doivent avoir pour maintenir les bonnes relations?
Ah, là, c'est vraiment délicat. Si les parents se méconduisent, ils donnent un mauvais exemple à leurs enfants. Ils vont grandir avec ça. Et plus tard, souvent les garçons vont se méconduire aussi. Et si la femme réagit, dit, mais écoute, chez nous, là, les hommes ont toujours fait ça. Ce sont de mauvaises habitudes qu'on transmet de génération en génération. Et on croit que l'homme, tout lui est permis. La femme, elle, doit obéir et rester à la maison. C'est un mauvais exemple. Est-ce que les enfants ont le courage de dire à leurs parents, mais c'est pas correct ce que vous êtes en train de faire? Chez nous, on va dire, mais ça ne regarde pas les enfants, ça peut être un chibindi. Mais les enfants peuvent recourir à d'autres personnes. Est-ce que vous ne pouvez pas parler à papa? Nous avons honte de le voir agir de telle manière. S'il connaît son ami le plus intime, qui peut-être lui se comporte différemment, est-ce que tu ne peux pas agir sur papa? Une semaine, deux semaines en dehors de chez nous, et nous sommes au courant qu'il a des relations avec d'autres femmes, ça ne nous arrange pas. Nous ne pouvons pas l'affronter en face, est-ce que tu ne peux pas nous aider? Je crois que s'ils font ça, de bonnes relations peuvent revenir et de bons résultats peuvent être enregistrés.
Isidore Bamanaï, éducateur à la vie, merci et bonne journée.
Merci Jody et au revoir aux auditeurs de la Radio Okapi.
Okapi. C'est vite fait, ça passe tellement vite, hein, 40 minutes.